Actu SF, les podcasts.
Bien, ben, merci pour votre patience et nous allons donc commencer cette table ronde qui s'intitule « Écrire de bonnes histoires avec de mauvais sentiments ». Alors, je vais vous le dire tout de suite, avec les quatre auteurs que nous avons ici, la partie bonnes histoires, il n'y a aucun problème. Bon, les mauvais sentiments, on va les aborder. Donc, en commençant par R.J. Barker, qui se trouve là-bas, qui a écrit « L'âge des assassins », tome 1 d'une trilogie qui s'appelle « Le royaume blessé ». Donc, c'est un premier roman. À côté de lui, Stephen Aryan, qui a écrit la trilogie de « L'âge des ténèbres », qui se compose de « Mage de guerre »,« Mage de sang » et « Mage du chaos ». Et à côté de lui, Stefan Pribilski, qui a fait lui une tétralogie pour être original. Donc la tétralogie des origines, qui comporte le château des millions d'années, le marteau de Thor, Club Uranium, et qui se termine avec le crépuscule des dieux. Rien que les titres, déjà, vous voyez qu'au niveau mauvais sentiments, il y en a quelques-uns. Et à côté de moi, Thomas Géa, qui vient de sortir, qui est un auteur qui avait déjà écrit un certain nombre de romans de fantasy, et qui vient de sortir, après une longue attente, Des sorciers et des hommes, qui vient de sortir, et où là aussi, bon, il y aura de quoi discuter. Alors, première chose, je dirais, pour ouvrir cette table ronde, c'est que les mauvais sentiments, me semble-t-il, c'est quelque chose d'assez subjectif. Si vous voulez être maître du monde, et que c'est vous qui gagnez, et que vous devenez effectivement maître du monde, vous avez raison, l'histoire est réécrite, et c'est lui qui avait des bons sentiments. Qu'en pensez-vous, messieurs ?
Absolutely. History is written, as you said, by the winners, and they can justify any of their actions for what they see as the greater good, even if it's something terrible. If they're the ones in charge, no one can really argue with them.
Oui, absolument. L'histoire est écrite par les vainqueurs, comme vous dites, et n'importe qui peut, à ce moment-là, justifier des actions même terribles sous prétexte qu'elles sont pour, au final, le bien commun de tous, pour un plus grand bien. Bien sûr, du coup, personne ne peut vous contredire, puisque, en fait, c'est vous qui êtes en position de décision.
Hello, everyone. Bonjour. I think it's important when you're writing someone who might be seen as unpleasant from the outside to remember that they're the hero of their own story and that they probably don't see themselves that way. And I think that's how you have to approach it as a writer.
Bonjour. Donc il me paraît important quand on écrit un personnage qui peut paraître comme ça pas très plaisant de l'extérieur, se rappeler que lui pour lui-même c'est son propre héros et que du coup lui ne se voit pas de cette façon-là. Faut toujours s'en rappeler quand on écrit les personnages.
Alors pour moi qui écrit essentiellement sur la période du second conflit mondial et de la guerre froide, c'est effectivement de dire que effectivement l'histoire est bien écrite par les vainqueurs, mais aussi parce qu'on est sur des événements qui sont relativement récents, on n'a pas le recul suffisant pour exactement évaluer un certain nombre d'événements et apprécier je dirais justement le côté le bien ou le mal des événements dans toute leur ampleur. Et ça, c'est valable aussi bien pour la période du XXe siècle que même celle du XIXe.
On m'a rappelé l'autre jour une citation d'un auteur qui s'appelle André Gide et qui disait qu'on écrit rarement de bonnes histoires avec de bons sentiments. D'ailleurs, même... historiquement, enfin, l'histoire se déroule rarement justement aussi avec des bons sentiments au départ. Hein. On voit toutes les guerres, etc., qui ont émaillé notre histoire. Donc c'est vrai que bon, on est tributaire un petit peu des changements de sentiments que l'être humain porte en lui.
Alors, une fois cela posé, donc, puisque nous sommes bien d'accord, tout ce que nous allons traiter maintenant, ce sont et les personnages ensuite dont nous allons parler, ils n'ont des mauvais sentiments que de notre point de vue. Hein, donc, nous sommes totalement subjectifs et biaisés en la matière. On est bien d'accord là-dessus, je pense. Ok. Alors, d'abord, il me semble qu'à travers vos différents romans, bon, déjà, on peut dire que souvent, il existe une atmosphère générale qui est parfois assez délétère. Bon, Stéphane Przybylski, vous avez déjà fait allusion effectivement au nazisme, puisque vos romans commencent avec la montée du nazisme. Donc, on peut peut-être commencer avec vous.
Oui, moi, l'idée, en fait, c'était de démarrer en Irak en 1939, lorsqu'une expédition archéologique nazie fait une découverte qui pourrait éventuellement permettre à l'Allemagne de gagner la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un point de départ totalement historique. Il y a bien eu des expéditions archéologiques nazies qui se sont rendues en Irak en 1939. Il y avait chez eux à la fois la volonté de remonter aux sources de la race aryenne et de sa prétendue supériorité, mais il y avait aussi une volonté politique qui était de s'arranger avec les habitants pour qu'ils épousent la cause des nazis et qu'ils chassent en fait les Anglais et les Français du secteur. Donc tout ça, c'est effectivement historique. Mais derrière, effectivement, le science fictif rattrape tout ça, je dirais. Et l'idée dans le récit, c'est de rendre ces événements, donc ces événements irréels, crédibles du point de vue de l'histoire, mais aussi effectivement des mauvais sentiments des personnages. Parce que forcément, à partir du moment où on se retrouve face à une technologie extraterrestre qui peut permettre de gagner la guerre, forcément, ça va intéresser à la fois les Américains, les Britanniques, les Allemands, mais avec chez eux des rapports qui ne sont pas forcément manichéens. Rappelez notamment que pour les Américains, jusqu'à cette époque-là, Hitler, c'est pour eux le meilleur rempart contre le communisme. Voilà, là, rien qu'en disant ça, on a une certaine idée du bien et du mal et des rapports que même les démocraties peuvent entretenir avec certains régimes totalitaires ou terroristes.
Merci. R.J. Barker, chez vous, dans l'âge des assassins, je bafouille, désolé. Chez vous, c'est la magie qui crée cette atmosphère générale de peur, parce qu'il s'est passé des événements dramatiques et la Terre a été ravagée par la magie, donc les gens ont peur de la magie.
Yeah. Oui. It takes place in the country is called the Tired Lands, which I thought was quite evocative of somewhere that has had an environmental catastrophe, because in my world, you create magic by stealing it from the land beneath you. Essentially, you create a desert. So it's a land that's under tremendous pressure. It can't produce enough food for the amount of people that live in it. So it is a struggle to survive. People dress in rags. Food is never enough. And that creates this quite oppressive atmosphere. And then you're in a castle within that, which is quite claustrophobic, and the main character, Gurton, who I wouldn't say is a bad person, he can't get out of this, he's trapped. And I think that's where the unpleasant feeling comes from. There's this pressure on them all, pressure on the whole place, and then the claustrophobic atmosphere that he's stuck within. So, is that fun for you, Helen, to translate? Yeah. She's looking forward to translating me.
L'interprète a hâte de traduire cela. Donc, l'endroit où ça se passe, le roman, ça s'appelle, alors en anglais c'est Tired Lands, je crois qu'en français c'est Les Terres Rases, ce qui évoque les Terres Lasses en français. Voilà. Et donc c'est assez évident d'après le nom que la Terre a un souci. Et effectivement, dans mon roman, on crée la magie en volant de l'énergie à la Terre. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait de la magie, la Terre se transforme en désert. Et du coup, forcément, ça met une grande pression sur tous les habitants puisqu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Les gens sont vêtus de haillons, donc ils n'arrivent pas à manger. Ça donne une atmosphère assez oppressante. Et après, dans ce décor, il y a un château. Qui rend plutôt claustrophobe. Hein. Et donc le personnage principal, qui n'est pas un méchant garçon, Girton, se retrouve coincé dans le château, il n'a pas le droit de sortir. Donc cet aspect désagréable du roman, c'est à la fois du coup, l'atmosphère générale du pays et l'aspect claustrophobique d'être coincé dans le château.
Oui, parce qu'effectivement, je veux juste rebondir sur une petite chose. Là, on a une double atmosphère, parce qu'effectivement, non seulement c'est claustrophobe, mais en plus, dans Maniyadok, il y a toute cette atmosphère de complot. On sait qu'on ne peut faire, personne ne peut faire confiance à personne.
No, there's... I'm going to test you. Duplicitous. It's very duplicitous. Yeah.
Go ahead. The French, you're lucky.
Everyone there is out for themselves, and also Girton, our hero, he's 15, but he's emotionally quite immature, and he doesn't have enough experience of people to understand who he might not be able to trust. And hopefully, you as the reader can see that. So that kind of adds another layer on that you're seeing that maybe. He's making a bad decision, and I think that helps with the atmosphere as well.
Alors effectivement, il y a une certaine duplicité. Donc ça, c'était pour tester la traductrice. Une certaine duplicité dans le roman. En gros, c'est chacun pour soi. Voilà. Girton, lui, il a 15 ans. Mais d'un point de vue émotion, il est assez immature. Il ne sait absolument pas en qui il peut faire confiance ou non. Et du coup, je pense que vous, en tant que lecteur, ça vous donne encore, ça donne une couche supplémentaire aux autres histoires. Et vous pouvez voir en tant que lecteur plus facilement que lui-même s'il prend de bonnes ou de mauvaises décisions. Et je pense que ça ajoute encore à l'atmosphère oppressante. Il faudrait sans doute que je rajoute que c'est une histoire de meurtre. Enfin, c'est un truc à élucider, une énigme à élucider.
Quant à vous, chez vous, Stéphane Ariane, dans le premier volume qui est Mage de guerre, il y a une guerre qui commence, qui se déroule. Le roi fou Taïkon a fédéré un certain nombre de royaumes et lui a utilisé la religion pour pouvoir opprimer les gens et les lancer dans une sorte de guerre sainte.
So he creates himself as this hero based upon religious text. He says he's a prophet. He adapts his behavior and all of the stuff around him so people think he is this great prophet, when of course he's not, but after a while he starts to believe it. So he doesn't see himself as evil. He thinks he's bringing peace to everybody by uniting them. Unfortunately, he does have to kill thousands of other people who disagree with him to reach this peace. But in his mind, it's a just and holy cause, a holy war.
Oui, donc en fait, il crée une certaine image de lui, ce roi fou. Il se pose en héros, en fait. Et en fait, il se met carrément dans la position d'un prophète. Et il adapte son comportement en fonction de ce rôle. Et en fait, à la fin, il commence lui-même à croire à ce rôle, à l'embrasser. Et pour lui, en fait, il s'agit avant tout d'apporter la paix, en fin de compte. Donc pour lui, en fait, c'est effectivement un bon sentiment à l'origine. Malheureusement, au passage, il doit tuer des milliers de personnes pour y arriver, mais voilà, il voit tout ça malgré tout comme une cause juste et sainte.
Et chez vous, Thomas Géa, alors là, on a un ensemble dit l'heptarchie, hein, si je me souviens bien.
Alors on a plusieurs choses, on a des royaumes, on a une heptarchie aussi, mais voilà. Qui est une heptarchie insulaire, donc ce sont un groupement de sept petits royaumes qui s'entraident mutuellement, mais on a aussi une grande île qui se compose de trois royaumes, l'Arly, le Flossol et la Dimala. Voilà. Mais parmi ces trois royaumes, il y en a un qui n'est pas du tout sympathique, on va dire, puisqu'il ne donne de nouvelles à personne, c'est le Flossol. Donc il est au milieu de cette grande île, ce qui fait que la Dimala, qui est complètement à droite sur cette grande île, n'a aucun rapport ni avec le Flossol, ni avec l'Arly, ou quasiment aucun rapport, parce qu'ils sont beaucoup trop à l'est. Donc effectivement, les enjeux de cette grande île, notamment pour des sorciers et des hommes qui se situent vraiment dans le royaume d'Adimala, vont vraiment se tourner vers, à la fois bah, évidemment cette heptarchie, vers ce royaume de l'Adimala et une île barbare qu'on appelle l'île de Scalep, qui est une île où on retrouve un peuple rude.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, hein, qui a quand même pas mal. J'ai pas mal utilisé les codes de l'Empire romain justement pour décrire le côté très rude de l'entraînement militaire, notamment sur cette île. Donc, c'est une île où au départ on pense que ce sont juste des barbares, mais on voit bien au fur et à mesure du déroulé du roman que sur cette île, alors certes ils sont un peu barbares parce qu'ils aiment piller, radier, etc. Mais ils ont quand même une certaine culture et une certaine éducation qui est très précise et très surveillée, en fait, très codifiée.
Voilà donc posé les atmosphères générales, donc vous voyez qu'ils ne sont pas forcément particulièrement sympathiques. Ce ne sont pas des pays souvent où il fait bon vivre. Et ça va vous permettre comme ça, on va pouvoir mieux apprécier ainsi certains des personnages qui évoluent dedans. Et évidemment, les personnages qui pour nous, dans le cadre de non seulement de cette table ronde, mais aussi de ces romans en général, sont les plus attirants. Bah, ce sont ceux qui sont vraiment les sales types, quoi. Il faut bien le dire, hein. C'est ceux-là qui offrent tout l'intérêt de la chose. Alors, par exemple, chez vous, Arjay, parce qu'on est toujours pris un petit peu, il ne faut pas non plus spoiler. Donc, c'est toujours difficile de faire l'équilibre. Mais moi, ce qui m'a fasciné chez vous, Arjay Barker, c'est que y a un nombre de personnages antipathiques à Mani Yadok qui est absolument effarant. Et ils sont tous antipathiques, sauf le héros principal, peut-on dire, et sa maîtresse qui lui apprend à assassiner, paradoxalement.
Yes, I think. Girton in this book, the hero, is very young, and you see it. It's written in the first person, so you see it through his eyes, and it's deliberately written in a way that, for him, the world is very black and white, and you see the people how he sees them. And I mean, the queen in it, Queen Adrum, was based on Margaret of Anjou, who was a very strong woman. If you read about her historically, comes across as quite unpleasant. When you put her into sort of context, that's the word I was looking for, when you put into historical context, you kind of understand why she acted the way she did. And as you read on the other books, which I very much hope you will, you will find out that Girton's ideas of why people were doing things and who they were are very simplistic. He's not particularly a narrator to be trusted. And maybe people's reasons and who they are is not quite as bad as you might think they are from the first book, if that makes sense.
Alors, Girton, le héros dans le roman, est assez jeune. Le roman est écrit à la première personne, donc on voit le monde à travers son regard à lui. Alors, sa façon de voir les choses est assez... c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a pas de milieu. Et par exemple, il y a le personnage de la reine, qui est fort désagréable et qui m'a été inspiré par Margaret de l'Anjou, qui est un personnage, quand on lit des l'histoire. Vraiment, c'était un personnage très fort. Marguerite, pardon. Marguerite d'Anjou ? Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'était un personnage. Okay. C'était un personnage très très fort, mais quand on regarde le contexte historique, on comprend pourquoi elle agit de la sorte. Et du coup, quand vous lirez les autres romans, parce que j'espère que vous lirez les romans suivants, vous pourrez vous rendre compte que la vision de Girton des autres personnages, il les voit de façon assez simpliste. Et peut-être que finalement, lui n'est pas aussi gentil qu'on avait l'impression dans le premier roman. Et peut-être que ceux qui ont fait de mauvaises actions n'étaient peut-être pas aussi méchants. Ils avaient peut-être aussi leurs raisons.
And the other thing, Girton and his relationship with his master is very much a mother and child relationship, and that you get like a dark mirror of that with Queen Adran and her son, and that's sort of a very deliberate decision to show you how you can do it right and how you cannot do it right.
Alors, je voulais juste rajouter qu'il y a la relation entre Girton et sa maîtresse, qui est une relation qui ressemble beaucoup à une relation entre une mère et son enfant. Et j'ai voulu faire un parallèle en négatif avec la reine et son fils. Et on peut voir qu'il y a une façon de bien éduquer son enfant et il y a la façon de mal le faire.
Chez vous, Stéphane Ariane, dès le premier volume, il n'y a aucune ambiguïté possible sur qui est le, n'ayons pas peur des mots, le salaud absolu, qui est le nécromancien, Thorvald, mage qui a manipulé justement donc le roi Tahikon, et donc c'est à cause de lui que cette guerre se déroule. Donc il n'y a aucune ambiguïté, c'est un salaud parfait.
Yes, he thinks he's doing it for good reasons, whereas everybody else sees what he's doing as destructive and dangerous and causing great harm. He has his own reasons, but we don't see the story very much from his point of view. We just tend to see it from other people, so they can only interpret his actions from how many people he kills and how often. As the series progresses, you do find out more about him, and you may not have sympathy for him, but you may begin to understand some of his reasons. But it's not clear up front. I wanted to make it black and white to begin with. As it goes on, it changes.
Oui, il pense qu'il fait tout ça pour de bonnes raisons, en fait. Alors que, en fait, bien sûr, il est très dangereux et il cause beaucoup de souffrance. Il a ses propres raisons de faire tout ça, mais on ne voit pas l'histoire de son point de vue. On ne voit l'histoire que du point de vue des autres personnages du livre, qui, eux, ne raisonnent qu'en termes de nombre de tués, combien de massacres, etc. Mais au fur et à mesure que la série progresse, en fait, on se rend compte que si on ne peut pas, bien sûr, éprouver de sympathie à son encontre, on peut au moins peut-être comprendre d'une certaine manière ses raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que si la série commence un peu sur un ton noir et blanc, en fait, plus on avance et plus on se rend compte qu'en fait, les choses ont plutôt tendance à être grises.
Absolument, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours une ligne très difficile pour pas trop spoiler ce qui va arriver après. Parce qu'effectivement, dans le deuxième volume, où on découvre une autre variété de magiciens tout aussi épouvantable, mais plus petit joueur parce qu'il tue individuellement au lieu de déclencher des guerres, mais qui prend possession des corps, une sorte de change-peau, là aussi, on le voit du point de vue des enquêteurs qui élucident ce mystère, mais en même temps, effectivement, pour nous, c'est épouvantable, mais on comprend mieux ensuite pourquoi ils le font.
Yes, it's that thing of slowly revealing what someone's doing, not doing it straight up front. So in the first book, it's quite black and white, as you said, and then in the second book, I wanted to make it a bit more a bit more mixed in the second book, so it's not as easy to to understand. I'm trying not to spoil, spoil the book as I talk about it, but it's it gets more complicated after the first.
Oui, c'est effectivement tout ce problème de. En fait, moi, j'essaye d'amener des révélations lentement à travers la série. Et c'est vrai qu'au début, voilà, comme vous dites, ça peut être effectivement très noir et blanc pour le premier livre. Et puis, en fait, à partir du deuxième livre, c'est plus nuancé. On est moins dans ce contexte de noir et blanc. Mais bon, effectivement, j'essaye d'éviter de spoiler, de révéler des choses. Donc, voilà, j'ai un petit peu de mal à.
C'est pour cela que nous ne parlerons pas du troisième volume. Chez vous, Stéphane Przybylski, aucun doute, hein, les méchants, dès le début, il y a les nazis avec la nonherbe, etc. Donc là, on ne se pose pas beaucoup de questions. Hein, quand l'un des principaux protagonistes, c'est Himmler, on sait que ça ne se passera pas très gentiment.
Effectivement. Ensuite, le personnage principal, le fait d'avoir choisi justement un officier de renseignement SS comme personnage principal, donc Friedrich Saxhauser, c'est justement pour confronter un certain nombre de contradictions, les contradictions de ce temps déjà, mais aussi de nos sociétés modernes occidentales depuis plus de deux siècles. Et ça renvoie directement, j'ai l'impression, à ce dont vous êtes en train de parler, de qui veut la fin, veut les moyens. Est-ce qu'on se préoccupe du nombre de morts que quelque chose peut faire si on veut atteindre un objectif? Je dirais que ces personnages-là renvoient directement aux méthodes de toutes nos sociétés. Les nazis, il faut savoir par exemple que les méthodes de persuasion des masses qu'ils ont employées, notamment Goebbels, leur ministre de la propagande, ce sont des méthodes américaines inventées par un auteur qui s'appelle Edward Bernays. Donc, qui lui a créé les communications de masse et les public relations modernes, qui a fait de la publicité aux États-Unis donc dans les années entre les années 1900 et 1920, et c'était le mentor de Joseph Goebbels. Il s'est directement inspiré de ses travaux. Bernays lui-même s'inspirant de Freud. Et parce qu'en plus c'était son neveu. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais donc voilà, on peut voir que voilà et comme la guerre moderne et les guerres forcément menées par les nazis ont été des guerres totales, où donc on était directement décidé et déterminé à frapper les populations et à toucher les populations et surtout évidemment les populations civiles. Il faut voir aussi les racines de tout ça au 19e, qui sont à rechercher autant dans les états-majors français qu'allemands, que de ce qui s'est fait pendant la guerre de sécession dans le camp nordiste, donc qui était le camp humaniste qui souhaitait abolir l'esclavage sur le continent américain et qui a pratiqué, notamment à travers le général Sherman dans le sud des États-Unis, une politique de la terre brûlée et une politique de la guerre totale qui s'en prenait directement aux populations civiles avec l'intention de faire sentir aux gens du sud tout le poids et le malheur de la guerre. Ce sont les mots exacts du général Sherman. Et le nom de Sherman, on en plaisantait avec une auteure qui s'appelle Sherman et qui est sur ce festival, sur une autre table ronde ce matin, il est honni encore dans le sud pour un nombre de personnes. Et je rappelle donc que ce général était, entre guillemets, dans le camp du bien. Donc c'est tout le propos du château des millions d'années de la tétralogie des origines que de démontrer à travers mes personnages, qui sont effectivement des personnages qui sont de le mauvais camp, que les racines, que la frontière entre le bien et le mal, elle n'est jamais claire, et en tout cas surtout pas quand on a seulement un recul de 70 ou même 170 ans sur une question, y compris sur la guerre civile américaine. On peut encore considérer que le recul n'est pas encore suffisant pour en apprécier tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Et notamment les mobiles de guerre du Nord, remplacer le paternalisme esclavagiste par une exploitation du prolétariat dans les industries du Nord.
Thomas Géa dans Des sorciers des hommes, là, on ne se pose pas la question. Vous avez pris deux anti-héros absolus, hein, Enger, guerrier qui fait tout pour satisfaire ses appétits en particulier, et soyons polis, ses appétits charnels, hein, on peut le dire comme ça, et qui s'associe pour cela avec Pic Karam, sorcier au ruban, donc très puissant, mais qui n'a aucun sens moral quel qu'il soit.
Non, il n'a aucun sens moral et aucune ambition particulière non plus, à part être quelqu'un qui vole, qui tue et qui s'enrichit. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que moi, je n'ai pas dans les sorciers des hommes de grands méchants à grande échelle qui fait des destructions quasi industrielles, comme Sauron et comme Himmler, évidemment. Hein. Voilà. Non, ce sont vraiment, comme tu dis, deux personnages qui... Enger, c'est un personnage, alors un barbare, mais un guerrier, qui a été banni et qui cherche... simplement aussi parfois à survivre, et il trouve le bon plan avec Pic Karam, qui est un sorcier effectivement, qui lui a besoin de protection pour ses rapines, tout simplement. Donc en fait, ils vont aller d'aventure en aventure dans ce royaume de la Dimala, à essayer de flouer leur prochain sans éventuellement laisser de traces. Alors effectivement, ça c'est toute la question du livre, c'est qu'ils ont beau penser ne pas laisser de traces, ils en laissent énormément.
Il faut dire qu'ils sont tellement persuadés d'être les meilleurs que finalement, ils ne font pas très attention.
Voilà, c'est exactement ça, ils ne font pas attention. Ils pensent que quand ils sont passés quelque part, ils ont tué tout le monde, donc tout va bien, il ne va pas y avoir de répercussions. Sauf que, évidemment, ils laissent des stigmates derrière eux, qui sont parfois anodins, parfois importants. Et il s'avère qu'au fur et à mesure du roman, on va se rendre compte que ceux qui ont été laissés derrière vont eux aussi s'organiser... pourquoi pas pour se venger, tout simplement. Donc, effectivement, on dit parfois qu'il y a un retour de bâton, justement, quand on a des sentiments qui ne sont pas tout à fait conventionnés pour être agréables. On va dire ça comme ça. Parfois, certaines personnes ont envie d'être exactement la même chose et agissent et réagissent. C'est sans doute le cas dans Des sorciers des hommes.
Alors là, on a vu donc ceux qui sont vraiment a priori mauvais par nature. Mais j'ai trouvé aussi que dans vos différents romans, ce qui était intéressant, et on a commencé à l'évoquer un petit peu par exemple avec Sachshauser, chez vous Stéphane Przybylski, ce sont ces personnages qui se situent entre les deux, les ambigus. Par exemple... Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, R.J. Barker. Girton et sa maîtresse, ce sont des personnages, ce sont des assassins. Donc, a priori, c'est pas les gens les plus sympathiques qui soient. Hein, ils tuent pour l'argent. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. Il y a un certain honneur. Ils peuvent agir aussi pour d'autres motifs. Je pense en particulier à son amitié pour Rufra, qui est le seul qui lui parlera.
Yeah, I don't know whether you can tell, but I'm not a very grim person. I'm quite smiley. And it was important to me when I was writing that I liked Girton, and for that he had to have a moral centre, which was important. And he gets that from his master, and she will kill people. But hopefully by the end of the book, you're left with the feeling that she... very particularly chooses who she kills. There is an agenda behind her thoughts and who she commits violence against. She wouldn't kill anyone on the panel, for instance, because we're all lovely. well, maybe Stephen, I don't know. But also, by the time I'd finished the book, the other thing that when we're talking about grey areas. It was quite important to me that I'd be able to, if I wanted to rewrite that same book from any character's point of view and then be the hero, which is what I was speaking about earlier on. I think Queen Adran, who is quite unpleasant, I think if you knew her story, you would, I could write that book. I could write her version where Gurton and Merrill are the adversaries, and they're trying to stop her doing something wonderful. And I could write it from the point of view of the king, and I could write it from the point of view of Prince Edor, even though nobody likes him. I could quite confidently sort of do that, and I was going to actually ask the other people on the panel. Could you? Oh, I'm taking over. Could you rewrite your book with the bad guys as the good guys? Probably more difficult for you two, from what you've said. But yeah, I'll let Helen.
Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, personnellement, je suis quelqu'un d'assez souriant, d'assez gai, contrairement au livre. Et du coup, ça me paraissait important quand j'ai écrit, comme j'aimais le personnage de Girton, je voulais qu'il ait quand même un certain sens moral qui lui vient de sa maîtresse. Et par exemple, elle assassine des gens, certes, mais elle choisit quand même un minimum ses assassinats. Et elle a des raisons pour le faire. Donc, par exemple, ici, sur ce plateau, elle ne tuerait personne, parce que nous sommes tous des êtres charmants. À part peut-être Steven. Mais bon, je m'égare. Et quand j'ai fini d'écrire le roman, donc on parlait tout à l'heure de ces espaces un peu gris, je voulais absolument être capable de réécrire l'histoire. C'est-à-dire que là, donc on voit le point de vue de Girton, mais je voulais être capable de le réécrire du point de vue d'autres personnages, par exemple la reine notamment, qui est extrêmement désagréable comme personnage, mais je pense que si on connaissait son histoire, on la comprendrait mieux, et je me sens capable d'écrire cette histoire. Elle voit Girton et Merella comme des adversaires qui sont là pour l'empêcher d'arriver à ses fins. Je pourrais également réécrire l'histoire du point de vue du roi, du point de vue du prince Ador, qui, même si personne ne l'aime lui, hein, vraiment dans le roman, c'est juste pas possible, mais je me sens capable d'écrire l'histoire de son point de vue. Et du coup, je me demandais si les autres écrivains, eux, se pensaient capables de réécrire le roman en mettant en gros que les gentils deviennent des méchants et inversement. Est-ce que, voilà, je suis en train de prendre le contrôle, je suis désolée.
Alors, messieurs.
Oui, effectivement, pas vraiment. Encore que quand vous dites, oui, si on connaissait le background de la reine, on pourrait comprendre pourquoi elle est si méchante. Ça me fait penser au silence des agneaux quand le tueur en série dit à sa victime, vous n'avez jamais souffert, vous. Et donc, voilà, j'essaie de ne pas leur trouver d'excuses, en tout cas. Déjà, primo, et secondo, quand je décris un méchant, et surtout dans cette période-là, hein, donc la période du nazisme ou de la guerre froide, je m'aperçois que, parce que je puise énormément dans la vraie histoire, l'histoire avec un grand H, je me retrouve souvent avec des personnages historiques qui sont encore bien plus détraqués que ceux que je pourrais imaginer. Il y a des profils de criminels de guerre nazis qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer en termes de profil, mais pas seulement de nazis. On peut aussi en trouver dans l'autre camp, où effectivement on peut toujours s'interroger sur à quel point le général Patton pouvait tenir compte du taux de perte de ses soldats quand il les envoyait au feu. Et ça, c'est valable à peu près dans toutes les armées occidentales. Donc, effectivement, réécrire ces personnages et subitement les faire passer pour des good guys, c'est pas, comment dire. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et mon personnage principal, qui s'appelle Saxhauser et qui est donc un SS. Même si ça renvoie à Tannhäuser, donc l'opéra de Richard Wagner, et donc qui est une histoire de chevalier en quête de rédemption, je dirais que la quête m'intéresse, mais ça, comment dire, son aboutissement, sans vouloir spoiler, forcément vous avez une petite idée. Derrière, à côté de tout ça, est-ce qu'on peut obtenir la rédemption ? Voilà. Mais est-ce qu'on peut obtenir la rédemption tout court ? C'est ça aussi un des propos dans la tétralogie. C'est à partir du moment où on ne fait pas forcément que le bien, il y a des choses qui, voilà, c'est, C'est le propos de la religion que de considérer qu'on peut effacer certains péchés. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas la volonté dans les religions d'utiliser ça comme un argument marketing et de dire « j'absoudrai tous tes péchés, ne t'inquiète pas, tu peux faire, mais tu peux grosso modo te comporter comme tu veux. » Il y a des rois, il y a des papes qui s'en sont largement accommodés.
Ça a été fait.
Thank you. It would be difficult, it would be interesting, because in the first book, you only ever see other people, the story from other people seeing what he does. You don't find his motivations inside his mind. So telling it from his point of view, you get a lot richer a character, I think, if I wrote it first person perspective. I don't know if it would change how people thought about him, I think. Because the character, despite what he thinks he's doing well, you can see that he's quite selfish and arrogant. But it would be an interesting challenge. I do not accept the challenge.
Ça serait difficile et intéressant. Je veux dire, on ne voit que la perspective des autres personnages, donc en fait, on ne comprend pas forcément et réellement ses motivations. Je pense que le fait de raconter le roman à la première personne de son point de vue, effectivement, ça pourrait rendre un personnage plus riche. Mais je ne sais pas si les gens adhéreraient malgré tout à ces idées, à ce personnage. Je ne sais pas s'ils auraient plus d'empathie, parce que on voit vraiment que c'est un personnage qui est extrêmement égoïste. Je refuse le défi.
Alors bon, pour moi, la question de Hardy tombe à pic, si je puis dire, parce que c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire vouloir varier les points de vue justement de cette histoire. J'ai construit mon roman comme une sorte de roman à épisodes, ou comme se déroulerait par exemple une série télé, donc on a plusieurs épisodes et puis on a un gros final. Alors pendant la plupart des épisodes, on suit effectivement Edgar et Picaram, qui sont le sorcier et le barbare, qui en fait au fur et à mesure des épisodes rencontrent des personnages divers et variés, qu'on laisse ensuite dans diverses positions, voire parfois des positions assez mortes. Voilà. Mais en tout cas, plus on arrive justement vers cet épisode final qui prend la moitié du roman tout de même, plus on approche de cet épisode, plus on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui sont en train de se passer. On ne sait pas quoi au juste, mais effectivement, quand arrive ce dernier épisode, on reprend le point de vue d'autres personnages qui sont pour certains des personnages qu'on a rencontrés dans d'autres épisodes et qui prennent la parole. Voilà. La parole, pourquoi ? Eh ben, évidemment, c'est le nœud de tout le récit. C'est le nœud de la finalité de ce récit que j'ai voulu justement très pluriel de cette façon-là. Voilà. Et donc c'était un exercice vraiment très, très chouette à faire, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à cette diversité finalement de tonalités et de points de vue. Voilà.
Alors, c'était très intéressant. Alors, on revenons un petit peu à certains des personnages. Je vois l'heure qui tourne, parce que ça passe tellement vite, c'est toujours le même problème. Et je reviens un petit peu au personnage ambigu. Alors, Stephen Arians, alors là encore, toujours sans vouloir spoiler, donc par exemple, on ne donnera aucun nom, restons un peu dans les généralités, mais il m'a semblé, je crois qu'on peut en parler parce qu'ils apparaissent dès le premier volume, c'est le rôle des dieux. Alors on ne cite pas de nom parce que ça spoilerait. Mais d'une manière générale, le rôle des dieux, il est quand même extrêmement ambigu.
So I'm influenced by the old films like Clash of the Titans and the Sinbad thing, and those old Greek and Roman gods where they're separate from humans, but they're constantly interfering with their actions. And I wanted in my books the idea of them walking among people, and you don't know that they're other, that they're something, that they're gods. and they're all ultimately have their own ambitions and drives, and they're manipulating events as well. So there again, they might be gods, but they're not all knowing, and they have their own needs as well. Just their power goes beyond mortals.
Oui, moi j'ai été très influencé dans mon travail par les vieux films comme Clash of Titans, Sinbad, et aussi les dieux romains et grecs qui en fait sont séparés du commun des mortels, bien sûr, mais qui passent leur temps à interférer avec leur vie. En fait, j'aime cette idée des dieux qui marchent parmi les hommes sans que les gens le sachent. Mais au bout du compte, ils ont leurs propres ambitions et ils sont bien sûr des personnages très manipulateurs. Et donc, ce sont des dieux qui ont énormément de pouvoir sans pour autant que les gens le sachent.
Ils ont énormément de pouvoir et en même temps, on peut le dire, ils sont très faibles. Ce pouvoir énorme qu'ils ont les rend faibles, finalement.
They rely on their followers to make them powerful and some fade with time.
Ça renvoie directement à la mythologie du crépuscule des dieux, parce que chez moi, et sans faire un énorme spoil. Ah pardon.
Oui, en fait, ils comptent sur leur fidèles pour leur donner ce pouvoir, mais en fait, le nombre de ces fidèles a tendance à diminuer et du coup, leur pouvoir diminue avec.
Voilà. Mais mes dieux font exactement la même chose. Et je ne fais pas de spoil par rapport à tout ça, mais c'est parce que ça se passe dans le croissant fertile et que ça interroge sur l'endroit d'où sont originaires les trois grandes religions monothéistes. Ça interroge effectivement sur les motivations de ces dieux et sur leur connexion avec l'humain. Quels sont leurs buts? Ne sont-ils pas aussi faibles, voire peut-être plus faibles que les humains? Et si les humains sont des jouets dans les mains de ces dieux, peut-être ces dieux sont-ils eux aussi les jouets d'autres entités et de leur propre mission et de leur propre rôle dans l'univers tout entier. Ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la tétralogie et surtout sur son final.
Mais dans la tétralogie, ce sont les humains qui ont décidé qu'ils étaient des dieux. Alors que chez Stephen, par exemple, les dieux ont dit qu'ils étaient des dieux.
Ouais. Voilà.
Et alors peut-être un petit mot avant de passer à Thomas Géa. Dans les personnages ambigus, il y en a quand même un qui est tout à fait fascinant qu'on retrouve dans les quatre volumes, c'est Monsieur Lee.
Ah, ça, Monsieur Lee.
C'est le personnage fascinant.
Oui, oui, parce que justement, je voulais, avec Monsieur Lee, justement porter un certain nombre des contradictions de l'Occident et de l'Amérique. C'est un espion américain. Et c'est lui qui va, on va dire, orchestrer une espèce de comité transnational qui va prendre en charge la dissimulation de l'existence d'une civilisation extraterrestre à la surface du globe. Et ce personnage-là, il porte effectivement en lui, je dirais, toutes les contradictions de nos sociétés, et parce que justement, ces méthodes de travail, qui là sont pour le coup purement historiques, elles empruntent autant à l'univers des régimes totalitaires qu'à celui des démocraties. Et quand on sait que le projet Manhattan, donc le projet qui a donc présidé à la création de la bombe atomique, il s'est affranchi du contrôle du Congrès américain, du contrôle du président des États-Unis, et qu'il a été financé par des capitaux privés, on touche au cœur de la modernité en fait de ces officines, mais aussi de leur opacité et de leur opacité qui empruntait davantage au totalitarisme qu'à la démocratie. Donc ce monsieur Lee, il porte avec lui tout ça, et voilà, avec le fait en plus qu'il est du sud des États-Unis, avec toutes les contradictions que ça peut aussi supposer, voilà.
Thomas Géa, dans Des sorciers des hommes, vous avez déjà abordé un petit peu, c'est-à-dire que hors des deux anti-héros principaux, tous les autres finalement sont très, très ambiguës dans leur, motivation à chaque fois et la manière dont ils réagissent aux, actions de Hent et de Pic, à part peut-être un qui est Drauz Drüber.
Oui, Drauz Drüber, ouais, qui est un, alors, dans mon roman, un fouillis-vi, c'est-à-dire un enquêteur. Mais effectivement, tous ces personnages sont une sorte de galerie, finalement, de plein de sentiments, de plein de caractères différents, etc. Et qui, d'une certaine façon, on en revient à la question divine, qui sont eux aussi manipulés par tout un arrière-plan qui reste finalement subtil et en retrait. On a la question de la magie, hein, finalement aussi, puisqu'on a par exemple une sorcière. Alors, ça ne s'appelle pas des sorciers et des hommes pour rien, ça englobe vraiment le côté magique et puis le côté humain aussi qui est très, très distinct et en même temps très réuni. Et on a cette question de la magie justement avec cette sorcière qui manipule finalement d'une certaine façon certains personnages avec sa magie. Elle a une magie très particulière liée aux éléments, liée à l'eau aussi. Et par exemple, pour prendre un exemple, elle est considérée comme une déesse aux poissons. C'est-à-dire qu'en fait, elle donne des poissons à ceux qu'elle a élus pour la servir. Et en fait, ces poissons qu'elle fait manger définissent le pouvoir magique que vont avoir ces élus. Donc, elle guide leur vie et elle guide la vie des hommes et de ces femmes de cette façon-là. Mais ça reste finalement en arrière-plan parce que on a cette magie, mais on a aussi tout justement tous ces sentiments et toute cette violence qui règne sur cette île et qui peut-être est aussi finalement le jouet de ces entités qui restent cachées. Voilà. Et voilà, tous ces personnages mettent ça en scène finalement.
Voilà. Alors, et une fois que vous aurez lu Des sorciers des hommes, comme moi, vous arrêterez de manger du poisson. Vous comprendrez pourquoi en lisant le roman. Donc l'heure a passé très vite et je crois que nous allons pouvoir remercier nos quatre auteurs pour avoir partagé avec nous tous les mauvais sentiments qui les animent et qui animent leurs personnages. Merci.